France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
En me promenant dans les couleurs de France Inter avec sous le bras le sujet Bob Dylan du téléphone sonne aujourd'hui, j'ai retenu cette phrase et c'est Amélie Perrier, figurez-vous, qui m'a raconté ça. Elle m'a dit, ça fait plus de 40 ans que mes parents se disputent au sujet de Bob Dylan. Pour l'un, c'est un génie et pour l'autre, il ne sait pas chanter. Autour de la table ce soir, je peux vous dire que nos invités ont coché la case A, génie. Et c'est aussi, et c'est vrai aussi, que ce phrasé si particulier de Dylan n'appartient qu'à lui. Vous nous direz peut-être ce que vous en pensez. Ce sont surtout vos souvenirs qu'on convoque ce soir, à l'occasion donc de la sortie du film avec Timothée Chalamet, qui raconte précisément Dylan de 61 à 65. Vous nous emmènerez où vous voudrez. Si vous avez eu 20 ans, même temps que Dylan, ou à peu près, qu'est-ce qu'il a changé en vous? Surtout, quelle boussole a-t-il été? Pas seulement à l'époque des Protest Song et de la première partie des années 60, mais aussi après, boussole qu'il a peut-être été d'ailleurs dans l'histoire de son pays. On est presque curieux de savoir ce que Dylan voit de notre 21e siècle, comment il regarde l'Amérique aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je l'imagine sans téléphone portable, en tout cas je ne l'imagine pas du tout en train de demander un truc à ChatGPT, mais allez savoir. Boussole pour sa génération à coup sûr, boussole pour les autres musiciens dont il a probablement changé l'écriture, demandé aux Beatles, comme il a d'ailleurs puisé lui-même chez les autres. Il y a aussi le garçon renfrogné, l'un de nos invités l'a interviewé, il nous racontera comment ça s'est passé, il paraît que c'était pas un exercice facile. Il y a le récipiendaire du prix Nobel de littérature qui ne vient pas chercher son prix. Il y en a plein des Dylan, choisissez le vôtre et on vous attend, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez Mireille, c'est vous la première et soyez la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir, écoutez, moi, mon Dylan à moi c'est 66, mon premier voyage à New York. Et dès qu'on est arrivé, on était un groupe d'étudiants, tous les soirs on était à Greenwich Village, voilà. Et on n'a jamais vu Dylan, on savait que c'était le bon endroit, et on a vécu un peu cette vie-là. Et depuis, bah, voilà, je suis restée fan de Dylan. Je l'ai vu à une seule fois en concert, je crois que c'était au Zénith de Paris. Je sais qu'il est passé cette année en Carcassonne, je ne suis pas très loin, je suis à Montpellier, à côté de Montpellier. Et donc voilà, donc c'est toujours mon chanteur préféré. J'ai beaucoup de ses disques, j'ai beaucoup de ses souvenirs. Je suis sur des groupes où on parle de lui. Et voilà, je l'admire beaucoup. Et je disais tout à l'heure que je ne comprenais pas ses chansons. Je comprends quand je les lis, mais je ne comprends toujours pas quand je l'écoute.
Ah bah voilà, c'est le fameux phrasé.
Progrès. Et pourtant, cette année, je suis retournée à New York et j'ai demandé à aller à Greenwich Village. Et je suis passée devant la taverne où il a commencé.
Et il était toujours
donc,
pas là.
Il y a une petite affiche, mais malheureusement, le quartier a beaucoup changé. Et il n'y a plus du tout la même ambiance.
Après, voilà. Mireille, je me demandais justement, à partir de 66 d'ailleurs, et cette période-là, je disais tout à l'heure, pour lancer le sujet, qu'il a été un peu la boussole pour une génération, pour certains, et peut-être pour son pays. Est-ce qu'il a été une boussole pour vous, Bob Dylan?
Ah bah oui, parce que nous, on a enchaîné en France avec Hugo Frey,
qui l'a traduit.
Qui passait dans les festivals, et qui traduisait les chansons. Après, il y a eu Graham Allwright, il y a eu toute cette période-là. Il y a eu Pete Seeger. Bon, moi, j'aime beaucoup aussi les chanteuses, donc j'aime beaucoup John Baez. Voilà.
Mais du coup, avec John Baez, vous compreniez mieux les paroles de Bob Dylan.
Oui,
non, mais objectivement.
Oui, de toute façon, à l'époque, c'était pas sous-titré, donc on n'avait pas les paroles dans les lyrics, mais on apprenait petit à petit quand même.
Merci Mireille, voilà. Merci pour vos jolis souvenirs, en tout cas pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a donc Mishka Assayas, vous l'avez déjà entendu rire. Bonsoir Mishka.
Bonsoir Fabienne.
On ne présente pas sur France Inter, Very Good Trip, c'est pas tout à fait après nous, mais juste derrière, à partir de 21h. Yves Bigot est là également, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes journaliste évidemment, Yves Bigot notamment, et vous avez écrit là, tout récemment, Bob Dylan Modern Time, aux éditions Le Mot et le Reste. J'ai envie de vous poser la même question, tous les deux, Camireille, en fait. C'est une boussole pour vous, Yves Bigot? J'ai l'impression d'avoir la réponse en ayant parcouru votre livre cet après-midi, mais c'est même plus qu'une boussole, d'ailleurs, apparemment.
Oui, d'évidence, c'est une inspiration, c'est en tous les cas une manière d'envisager l'existence en se basant sur la nature humaine et sur le fait que ben, à part la culture, il n'y a finalement pas grand-chose à en tirer. Mais c'est quelqu'un, moi, la thèse de l'essai que je viens de publier, elle tient en trois mots, c'est Homer, Shakespeare, Dylan.
Ok, voilà. Et avant, après, rien du tout. Moi, je me demandais, Mireille nous dit qu'elle le rencontre en soi, enfin, elle rencontre la musique de Dylan en 66, et puis elle l'amène jusqu'à aujourd'hui. Ce que je trouve, moi, assez incroyable chez ce gars-là, c'est qu'il emmène une génération avec lui au début des années 60, effectivement, et dans le bouillonnement politique qu'étaient les États-Unis à ce moment-là. On a l'impression qu'il a passé sa carrière à les dérouter au fur et à mesure. Oui. Il y en a qui s'en sont détournés et puis il y en a qui ont embrassé ça, qui ont dit ouais, allez, ok, on arrête de te demander Tambourine Man, emmène-nous vers autre chose et étonne-nous à chaque fois.
Bah, moi, j'ai, pour rebondir sur l'idée de boussole et pour apporter un témoignage à mon échelle, en fait, j'étais un enfant quand j'ai entendu pour la première fois de la voix de Bob Dylan, je pense que j'avais 8 ans, et j'ai entendu une chanson qui s'appelle Gates of Eden, et qui m'a donné envie, je crois, pour la première fois, d'ouvrir un dictionnaire anglais et de comprendre une langue qui n'était pas du tout la mienne, une voix qui venait on ne sait d'où, et pour moi, ça aurait pu être un extraterrestre. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui détestaient Dylan. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne sait pas chanter, il chante du nez, il est ridicule, mais comment tu peux écouter ça? C'est insupportable, etc. Je veux dire, tu parlais d'Hugo Frey, il se trouvait que je m'étais entretenu avec lui une fois, et il se souvenait de ça, qu'il y avait beaucoup d'hostilité vis-à-vis de la voix de Bob Dylan.
Bien sûr, alors que pour les gens qui se demandent, mais il ne sait pas chanter, Tony Bennett, donc un crooner, pour qui la question ne se pose pas.
Et qui articulait beaucoup.
Voilà, a dit Dylan, ouais, il chante pas tellement, mais il sait phraser mieux que personne au monde.
Mmh. C'est ça.
Quand même, Yves Bigot, je voudrais revenir à Homer et Shakespeare. Pourquoi Homer et Shakespeare?
Ah, parce que c'est la légende absolue, c'est-à-dire c'est des gens qui écrivent pour le temps géologique, et Dylan, en même temps, a un impact immédiat sur son époque et sur ses contemporains. Et le fait qu'il soit capable de faire ces deux choses, ben c'est ce qu'on a dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est ce qu'on a dans toute l'œuvre de Shakespeare.
Et aujourd'hui encore, vous diriez, en fait
Aujourd'hui encore, alors je peux vous dire, moi je l'ai vu une douzaine de fois sur scène au cours de ces trois dernières années, donc...
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, oui, mais je suis addict. Hein. Je peux vous dire, moi je trouve ces concerts formidables, ils sont tous différents d'un soir sur l'autre, et puis son dernier album à ce jour, donc qui remonte à 2020, hein, qui était tombé en plein confinement planétaire, l'album Rough and Rowdy Ways, c'est un des 10 meilleurs albums de sa carrière, c'est-à-dire qu'à 80 ans passés, il continue d'avoir toujours ce talent incroyable et cette pertinence incroyable, parce que Murder Most Foul, qui tombe comme ça en plein milieu du lockdown...
Oui, qui est une évocation de l'assassinat du président Kennedy...
Mais c'est une prophétie.
Il y a une alerte AFP qui vient de tomber et je vais vous le donner maintenant parce que ça parle aussi de cette période-là. C'est Marianne Faithfull qui vient de mourir à 78 ans. Et je vois la tête de Mishka et la tristesse de Mishka. Ça parle aussi de tout ça, en fait. Ça parle de cette période-là. Ça parle
Très amie avec Dylan.
Exactement. Oui. Ça parle de ce bouillonnement-là.
Ouais, je suis assez bouleversé. Enfin bon, c'est pour des raisons... j'ai un ami. Enfin, mais oui, je savais qu'elle n'allait pas bien. Mais ce sont en fait des gens miraculeux. Enfin, moi, je ne suis pas de cette génération-là, je suis plus jeune, mais je pense que si ces gens-là n'avaient pas été là, je pense que rien n'aurait vibré de la même façon en moi et en des centaines de milliers, des millions de personnes autour du monde.
Alors, Patti Smith le dit très bien. Hein.
Oui.
Elle dit, alors c'est elle que Dylan a envoyé à la cérémonie de remise du prix Nobel de littérature. Ouais. Lui, il est allé chercher sa médaille après.
Vous allez nous éclairer ça, d'ailleurs. Bah, allez-y d'abord, finissez et bigot là-dessus.
Donc Patti Smith, elle dit, je n'ai pas pu vivre autant de Rimbaud, mais je suis heureuse d'avoir vécu autant de Dylan. Je dis la même chose, et je pense que c'est ce que vient de dire Mishka.
Oui, en fait, ce qui est paradoxal dans ce que dit Yves, c'est que les gens sérieux, entre guillemets, n'avaient que mépris pour Bob Dylan. Quand on voit la conférence de presse qu'il a donnée à Paris au milieu des années 60, mais la condescendance avec laquelle les journalistes lui parlent, à un moment, il y en a un qui lui dit « Mais pourquoi chantez-vous » C'est quand même, faut le faire, quoi. Et d'ailleurs, il dit « Moi, il y a en a un autre aux États-Unis à la même période qui dit « Écoutez, j'ai jamais écouté vos chansons, mais je voudrais comprendre ce que vous avez dans la tête. »
En même temps, effectivement, c'est très condescendant. Pourquoi chantez-vous ? Mais en même temps, on se dit, il a tellement été chanté par les autres. Et au fond, si John Baez n'avait pas été là, par exemple, probablement qu'il n'aurait pas été connu pour lancer les premières choses à ce moment-là. Est-ce que c'est un chanteur, Dylan Hubigo ? Est-ce que c'est un songwriter avec des grandes majuscules, en fait, à songwriter ?
Oui, bien sûr, c'est le plus grand. Alors déjà, singer-songwriter, donc en français, on dit auteur-compositeur-interprète, à la SACEM. C'est lui qui a inventé ce job pour les Américains. Tout le monde lui doit absolument tout. Et oui, non seulement, effectivement, il a été chanté, repris par tout le monde, non seulement il a exercé une influence magistrale, majestueuse sur les Beatles, sur les Rolling Stones, sur Jimi Hendrix, sur tout le monde, mais il est lui-même un interprète absolument formidable.
Oui, et juste très brièvement, avant lui, en fait, les chanteurs qui s'inséraient dans ce courant de la chanson folk reprenaient des chansons traditionnelles dont ils n'étaient pas les auteurs. Ouais. Il est le premier
à avoir disque, imposé... C'est d'ailleurs de la reprise.
C'est des reprises. Ouais. Et c'était le premier à imposer l'idée, c'est moi qui vais écrire mes textes et qui vais raconter mon époque.
Allez, retour au standard avec Luc qui nous attend. Bonsoir Luc.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi, je n'avais pas vraiment de culture musicale et Dylan, j'ai pris le train Dylan avec un copain d'école, on avait 13-14 ans, Pierre, qui nous jouait au fond du car, dans les champs, dans les chambres et tout ça. Et je me souviens du frisson qu'on avait parce que c'était non seulement une ouverture musicale, mais une ouverture politique, sociale et générationnelle. Et en regardant en avant-première le film l'autre jour, et la chanson The Times They Are Changing au Festival de Westport, je me suis mis à pleurer en ressentant à nouveau ce frisson de changement positif que Dylan traînait avec lui. Et en le comparant avec les temps qui changent à nouveau là maintenant, mais de l'autre côté, enfin d'une façon totalement négative, et j'ai eu un frisson de nostalgie émouvante et désespérée en même temps. C'était Dylan, ça a été un porte-drapeau le premier et formidable.
Merci beaucoup Luc, et merci aussi pour la jolie émotion. Moi je me suis demandé les uns ou les autres, et notamment en voyant le film d'ailleurs. Donc qui de cette période de la 61-65, donc on est en plein dans le Dylan politique, effectivement. Et je me suis demandé, en fait, si Dylan était vraiment politique avec un grand P, donc s'il avait un discours politique, cet homme, ou si, et notre auditeur a cité The Time They Are Changing, ou s'il avait un pif considérable pour sentir effectivement son époque, ce qu'elle voulait entendre et ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Mais des mots politiques de Dylan, il y en a, Yves Bigot, ou pas ?
Oui, bien sûr, des chansons, Masters of War, We've Got On Our Side, Le Monde et les Temps Changent,
beaucoup
d'autres.
Mais il
a quand même fait beaucoup de choses. Il a notamment conceptualisé le racisme systémique 4 ans avant les Black Panthers. Et beaucoup de choses comme ça. Après, lui, comment se situe-t-il politiquement ? Là, c'est une autre question. On sait qu'il est démocrate, il était très ami avec Jimmy Carter. On sait qu'il a beaucoup soutenu Barack Obama aussi. Mais il se situe au-dessus. Et vous parliez dans votre introduction de ses ruptures et de ses refus. Il est obsédé par le fait de ne pas être récupéré, comme on disait à l'époque, ou manipulé. Ouais. Et donc, il veut toujours, et d'ailleurs au XXIe siècle, où il continue d'enregistrer des albums remarquables, il se situe au-dessus des contingences. On a l'impression que, comme un prophète, pour le moins, il écrit depuis l'au-delà, qui regarde le monde avec un regard, et c'est là qu'il rejoint Shakespeare, très désabusé sur le monde, assez ironique, et qu'il est au-dessus de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que, bien qu'on sache qu'il est démocrate, par exemple, il n'a jamais voulu condamner George Bush Jr. Ouais. Parce qu'il dit... Moi, il est là que pour 4 ans. Vis-à-vis du temps géologique, ça n'a pas d'importance.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le seul endroit avec un monde fou, une vraie foule politique, c'est le fameux meeting avec Martin Luther King en
60. Alors justement, je voudrais revenir sur le témoignage de notre auditeur qui souligne quelque chose de très juste. C'est ce climat de ferveur collective qui existait au début des années 60 dans ce courant de la chanson engagée et qu'on a connu en France aussi. C'est-à-dire que le film rend ça très bien, c'est que les gens chantent ensemble et ils pensent que la chanson peut changer la société. Et Dylan a été sacré le porte-parole de la cause des droits civiques, c'est-à-dire que la ségrégation régnait dans différents états des États-Unis. Il a non seulement fait des chansons qui dénonçaient des crimes, des lynchages épouvantables qui ont été commis, il est monté en effet sur l'estrade aux côtés de Martin Luther King, le pasteur King, pour participer à cette marche pour les droits...
C'est le discours I Have a Dream, il est là.
Il est là, mais en même temps, là, Yves a raison, il est très mal à l'aise dès qu'il est embrigadé. Et il a causé le scandale assez vite, d'ailleurs, par ses déclarations à cette époque.
On a cette remarque de Claire sur WhatsApp que je trouve formidable. J'aimerais entendre vos invités réagir à cet article du New York Times. Vous l'avez peut-être lu à une période qui décrit Dylan comme un faux politique qui parle de l'apologisme de la neutralité. Et ça rejoint, au fond, ce que vous êtes en train de dire, Mishka, je trouve. C'est-à-dire, il est exactement à sa place et en même temps, sans trop savoir si... presque gêné d'être au milieu de cette énorme foule, en fait.
Bah, il s'en est détaché, c'est l'histoire que raconte le film. C'est comment, comme dit James Mangold, le réalisateur, très justement, c'est comme un conte de fées, c'est-à-dire qu'il est sacré roi de la chanson folk, Joan Baez étant la reine, lui c'est un peu le prince consort hein, au début, et à la fin, eh bien, il jette sa couronne aux orties et il se barre.
Mmh. Frédéric est avec nous, bonsoir Frédéric. Frédéric,
bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Oui, bah écoutez, merci beaucoup pour me permettre de donner un témoignage. Bon, moi, en fait, j'ai connu Dylan dans les années 70, vers 76-77, au moment de la sortie de l'album Desire Hurricane. Et ce qui m'a... Alors, j'avais découvert Dylan juste après avoir découvert les Beatles, hein, parce que j'étais encore jeune à l'époque et je sortais de musique plutôt de variété. Et Dylan, pour moi, ça a été vraiment un souffle d'intelligence, de créativité vraiment extraordinaire, parce que non seulement sa musique rendait plus intelligente, mais en même temps, il parlait de aussi de poésie, de toutes sortes de choses. Moi, j'étais extrêmement touché par ses prises de position contre la ségrégation avec des chansons comme Emmett Till ou Hurricane, mais aussi avec, par exemple, des chansons extrêmement poétiques, style Rimbaud avec Mr. Tambourine Man, des chansons comme ça, ou extrêmement longues, extrêmement belles, comme par exemple les chansons des Alashan Row, ou des chansons comme Sad Lady of the Lowlands, des choses comme ça qui sont extrêmement poétiques et très très belles. Mais aussi, je trouve que Dylan, en plus de ça, c'est un passeur, parce qu'il parle dans ses interviews ou autres de gens qui l'ont qu'il a connu ou qui l'ont influencé. Et évidemment, dans une interview, il a parlé de l'écrivain Henry Miller, qui dit aimer, dans une interview 78. Et grâce à lui, j'ai découvert cet écrivain, et grâce à Henry Miller, ben, j'ai découvert plein d'autres écrivains, qui sont aussi bien anglais, américains, mais aussi, par exemple, français, comme Blaise Cendrars, que je connaissais pas du tout. Donc, vraiment, je trouve que Dylan est un passeur et qu'il mérite largement son prix Nobel de littérature.
Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, Frédéric, formidable. S'il pouvait vous entendre, on va lui envoyer ça. Merci vraiment. Passeur, Yves Vigeau, moi, j'aimerais bien savoir, alors, pas seulement comme le dit Frédéric, c'est-à-dire qu'il a été ouvert à beaucoup de choses grâce à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on chante, y compris aux États-Unis, on doit à un moment ou à un autre se réclamer de Bob Dylan, en fait ? Est-ce que même la musique telle qu'elle est faite aujourd'hui, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, même si c'est de la pop aujourd'hui, ou même du rap ou autre chose, est-ce qu'à un moment ou à un autre, tous ces gens doivent quelque chose à Dylan ?
Oui, bien sûr, le rap n'aurait pas grand-chose à dire si Dylan n'avait pas permis qu'on puisse parler de tout. Justement, oui. Dans des chansons, ce qui n'était pas le cas du tout avant lui. Et puis Taylor Swift, qu'elle le veuille ou non, elle est son héritière aussi. Hein. Mm-hmm. Elle écrit des chansons dans lesquelles elle raconte ses histoires à elle, sa façon de voir le monde, les relations avec ses petits copains, etc. Parce que Dylan, il a aussi écrit sur la politique sexuelle, comme personne ne l'avait jamais fait avant lui. Dans des chansons aussi bêtes que Don't Think Twice, It's Alright, ou Can You Please Crawl Out Your Window. bah, il raconte des trucs dont personne n'avait jamais parlé, des relations amoureuses comme ça. D'ailleurs, dans le film, on voit deux de ses compagnes, on ne voit pas la troisième d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Mais oui, Dylan, si vous voulez, ce qu'il a de très singulier et qui rend évident la légitimité de son prix Nobel de littérature, mais même au-delà, c'est que, en fait, dans son travail, dans ses chansons, on trouve tout ce que l'humanité a produit avant lui. C'est ça qu'il a d'assez phénoménal, c'est qu'il a la connaissance de tout ce qui s'est passé, je vous disais, Homer, Shakespeare, mais William Blake, Percy Shelley, Lord Byron, Rimbaud, François Villon, Baudelaire, Mallarmé, Edgar Poe, Walt Whitman, vous voyez, Melville, tout ça, et il a la connaissance de tout ça, et de la même manière qu'en musique, il a Woody Guthrie, il a Hank Williams, il a Chuck Berry, il a Robert Johnson, donc c'est d'une magnitude absolument vertigineuse.
Mais vous savez, il y a une formule qu'avait trouvé un de ses compagnons de Greenwich Village, du temps du folk, qui disait « Dylan était comme une éponge, il absorbait tout ». Et je pense qu'il a cette aptitude à capter tout ce qui le traverse d'une manière, je dirais, plus intense que les autres. Et donc, en effet, que ce soit Edgar Poe, que ce soit Rimbaud, dont son ami Suze Rotolo, qui est incarné par une certaine Sylvie dans le film, lui fait
dire. C'est lui, Dylan, qui a demandé à changer les prénoms.
Oui, parce qu'il estimait que comme elle n'était pas un personnage public, elle n'avait pas à être citée dans le film. Tout le monde n'a pas ses scrupules. Mais, et c'est pareil pour la musique, c'est-à-dire qu'en fait, il a capté toutes les musiques américaines.
Ouais, il syncrétise tout.
Il syncrétise tout et il incarne tout à sa façon.
Allez, retour au standard avec vous, Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors écoutez, j'ai beaucoup aimé Bob Dylan dès ses débuts, qui m'a permis de découvrir en effet des pans de la musique américaine que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé aussi son virage rock, de fait, même s'il a été un peu contesté par certains. J'adore le disque du Gaufret, parce que ce disque-là, avec des duos très savoureux, permet de comprendre les chansons qu'on comprenait mal, que je comprenais mal jusque-là. Par contre, j'ai vu Bob Dylan au festival Post Guitare d'Albi, il y a quelques années, et j'ai été déçu. J'ai été déçu par le showman, j'ai été déçu par la personne qui donne un concert minimaliste en termes de temps, de volume, je dirais, qui n'est pas généreux, qui ne regarde pas le public. Ses musiciens, très bons d'ailleurs, jouent quasiment plus longtemps que lui pendant son concert. Donc est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il était en colère? En tout cas, c'était décevant. Et tout ça m'a fait penser à ses amours, notamment avec John Baez, qui l'a beaucoup aidé au début et qui l'a pas très, très bien traité. Donc, sans doute un grand musicien, peut-être un grand écrivain, mais par contre, un homme qui n'est pas un demi-dieu, quoi, loin de là.
Merci, Michel. Alors, Michel est un peu le porte-parole de beaucoup, beaucoup de nos auditeurs. Il y en a qui nous expliquent qu'ils l'ont vu aux Vieilles Charrues, que ça a été une catastrophe. Il y en a qui nous disent qu'ils l'ont vu tourner le doigt à la scène, c'est quand même pas cool. Enfin, je vais vous poser la question comme ça, Yves Bigot. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, Bob Dylan? Non, parce qu'on peut être un génie et pas être un type très sympa, hein. C'est pas grave.
Oui, mais écoutez, c'est-à-dire alors Dylan, par rapport à la scène et à ses concerts, c'est pas un entertainer. Il est pas là pour que vous chantiez en chœur avec lui, que vous tapiez dans les mains en rythme.
D'ailleurs, il refait les versions de ses chansons à chaque fois, on a du mal à suivre, on pourrait être
honnête. Voilà, même sur le refrain de Like a Rolling Stone. Pourquoi? Parce que Il est ailleurs. Dylan, comme performeur sur scène, il faut le comparer à Miles Davis, qui, lui aussi, jouait de la trompette en tournant le dos au public, qui ne parlait pas au public, qui ne fait pas de sourire, parce que, alors, il considère, on peut le critiquer, et on peut effectivement être très déçu si c'est ce qu'on vient chercher, mais lui, il considère que le public doit venir à lui et que ça n'est pas à lui d'aller au public. Si vous voulez, il faudrait...
C'est un petit peu gonflé, si je puis me permettre. Non, mais sérieusement, enfin...
Il a conscience de son destin, depuis toujours. Il a conscience de qui il est. Et lui, il se comporte, en fait, sur scène, comme quelqu'un qui cherche sa musique tous les soirs. C'est pour ça que ses concerts sont tous différents. Alors, il peut y en avoir de ratés parce qu'il est humain, justement, ouais. Et que quand on cherche, ben on trouve pas forcément.
Je suis content de vous entendre dire qu'il est humain quand même, Yvico.
Non mais on trouve pas. Dès lors qu'on cherche, on trouve pas forcément tous les soirs.
Vous l'avez interviewé par exemple, parce qu'on dit toujours que c'est un pensum quoi. Là j'ai un gros numéro, je le montre parce qu'on les aime bien et puis parce que vous êtes dedans, Mishka aussi. Ouais. Le numéro de légende est consacré à Bob Dylan. Il y a comment il s'appelle, Antoine Decaune, qui l'a interviewé en 1984 et qui dit à quel point c'était un pensum. Il y a même un passage, je lui dis, ça vous ennuie pas de développer parce que les réponses en deux secondes, c'est quand même assez raide. Est-ce que c'était raide pour vous? Et je vous repose la question. C'est pas forcément un mec bien. Encore une fois, c'est pas grave, ça enlève rien à son génie, mais est-ce que c'était quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de bien?
Alors, d'abord, on ne peut pas répondre à cette question en l'ayant rencontré, comme ça a été mon cas, trois fois dans sa vie, dont une des rencontres et l'interview, c'était en plus au téléphone. Moi, j'étais à Paris, dans une autre radio, et lui était backstage dans ses concerts à Detroit. Okay. Donc, déjà, il y avait le décalage transatlatique, c'était le 12 juin 1981, vous voyez, je m'en souviens. Ouais. Et donc, c'est encore plus compliqué au téléphone parce qu'on ne le voit pas. Et dès que vous avez un blanc de 3 secondes, vous ne savez pas s'il s'est levé, il est parti.
Ah, ben ça, c'est sûr.
Ou s'il est tellement affligé par votre question qu'il ne va plus vous répondre. Donc, mais en revanche, alors je peux vous dire en privé et sans en dire plus, que si vous dites à Bob Dylan, passe-moi le sel, il va vous passer le sel très gentiment. Si vous lui demandez l'heure, il va vous donner l'heure très gentiment.
Est-ce qu'on a envie de lui taper dans le dos et lui dire viens boire une bière en fait?
Non, on n'a pas envie de taper dans le dos de Bob Dylan, mais j'aurais pas eu envie de taper dans le dos de Miles Davis non plus. Et je m'y serais pas risqué pour Miles en plus.
Je pense qu'enfin, Yves sera d'accord avec moi, il a un côté farceur. Oui. Il a un côté loufoque. Et ça, c'est pas le rap politique, Dylan. C'est le rap déconnant. Et il y a une histoire que Elvis Costello, que j'ai interviewé il y a pas longtemps, m'a racontée sur Dylan. C'est que, en fait, vous savez, il a fait une chanson qui s'appelle Pump It Up, qui est pas super connue, qui est très proche de Subterranean Homesick Blues, que Dylan a chanté en 65. Et donc, ils se croisent en coulisses d'un concert, et YouTube,
il se toise.
Il y a un grand respect, je pense, de la part de Costello. Et donc, YouTube venait de sortir une chanson encore moins connue qui s'appelle, je sais pas, Get Off Your Boots, enfin, qui ressemble exactement à ce truc chanté, parlé, c'est le même rythme, c'est le même riff, etc. Et Dylan va voir Costello, il dit, dis donc, quand même, Bono, là, il est gonflé, hein. T'as vu? Il t'a complètement pompé. Tu peux pas laisser passer ça. Alors qu'il savait très bien que Costello l'avait imité. Donc, il est rigolo. Et je pense que ce qu'il cherche sur scène, c'est la vérité de l'instant. C'est-à-dire que s'il est pas là, il est pas là. Et c'est comme ça, vous avez payé pour le voir, c'est votre problème, etc. Et moi, j'ai vu des concerts de Dylan où je me suis fait chier, mais honnêtement, pendant une heure et demie. Et puis, miracle, à un moment, il y a une lumière qui s'allume, il est là et c'est dément, et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je me souviens d'une version de Mr. Tambourine Man en 1995 au Zénith, où effectivement, il se passait pas grand-chose, et tout à coup, il a chanté Mr. Tambourine Man. Je veux dire, j'ai été soulevé de terre parce que je me suis dit, on a l'impression qu'il chante cette chanson comme si elle n'était pas de lui. Il la réinvente complètement et c'est comme il était en train de l'improviser devant vous.
On a un auditeur qui nous écoute, qui s'appelle Chris sur WhatsApp et qui dit 20 minutes pour accorder sa guitare avant de démarrer la première chanson, c'est un record à battre.
Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est le concert de 66.
Oui, voilà, ça, c'était. Oui, c'est la tournée 66, bien sûr, et le fameux Olympia. Hein.
Le fameux Olympia où il dit aux gens, écoutez, lisez un magazine si ça vous ennuie et tout ça.
Oui, où il avait exigé à l'entracte de voir Françoise Hardy, sinon il revenait pas sur scène.
Oui, elle l'a raconté. Elle a dû aller à son hôtel, parce que c'était même pas dans la loge, je crois, il y a une histoire de dingue.
Alors elle est allée dans la loge pour qu'il l'accepte, et ensuite Johnny Hallyday, Hugo Frey et elle ont été invités au George V.
Ah, c'est ça.
Après, mais il n'y a qu'elle qui a été invitée dans sa chambre.
À écouter ses nouvelles chansons.
Et à écouter notamment I Want You,
qui était pour elle.
Message.
Qui était pour elle, clairement. Elle dit, moi j'étais bécassine, j'ai rien compris. Et tout ça.
Olivier est avec nous, bonsoir Olivier.
Oui, bonjour, Eva, appelez-moi bécassine dans ce cas. parce que j'ai fait du British à la fac et tout ça, et moi j'aime Prince et machin, les Beatles et Dylan, j'arrive pas. Alors je me demande s'il est comme Liam Gallagher sur scène, où il peut être, comment rentrer dans Dylan, parce que j'ai peur de passer à côté d'un truc, quoi.
C'est une vraie bonne question. Comment on rentre dans Dylan, Yves Bigot, ou Mishka, comme vous voulez? Dans quel sens on rentre par Bob Dylan?
Bah, est-ce que, la question peut-être, si je me permets de vous poser, allez-y. Est-ce qu'il y a une chanson de Bob Dylan qui à un moment vous a fait quelque chose ?
Pas encore.
Ah ouais ? Vous en avez écouté beaucoup ?
Non, ce qui peut passer sur Inter, quoi.
Ah oui,
parce que dans passer... la playlist bah là, d'Inter.
Oui, mais là, attendez, moi cette semaine j'ai fait une série de Very Good Trip là sur Dylan, donc là vous pouvez en profiter.
Voilà, c'est ça que je me suis dit que je dois.
Ah bah oui,
mais il faut réécouter tous les Very Good Trip.
Je vous ai pas payé.
Mais cela dit, moi je trouve qu'elle est bonne la question d'Olivier. Est-ce qu'on commence du début? Si on veut comprendre Dylan, est-ce qu'on est obligé de le prendre au début en fait ou pas?
Non, pas du tout. Mais vous savez, je crois en fait que ce qui se passe, c'est de toute façon pour toute occasion de la vie, pour tout ce qui peut vous arriver. D'ailleurs, on voit ça dans les séries américaines. Il n'y a pas une série américaine dans laquelle, à un moment, il n'y a pas une chanson de Dylan. Mmh. Parce qu'il a toujours une chanson pour un moment de ce que vous vivez. Et c'est sans doute à ce moment-là que vous êtes percuté par ce truc-là. Je vais vous donner un exemple. Il y a une chanson, tout le monde était passé à côté, sur l'album Infidels, donc en 1983, quand il sort de sa période Jésus, il écrit un morceau qui s'appelle Union Sundown. Personne n'a remarqué particulièrement ce morceau. Vous l'écoutez aujourd'hui, ouais. En janvier 2025, c'est un morceau dans lequel il vous explique que la démocratie, c'est pas gagné pour toujours.
Mmh. Ah oui, oui.
Parce que la nature humaine mettra fin à la démocratie si on n'y fait pas attention. Et il n'y a pas plus pertinent aujourd'hui en janvier 2025.
Après, oui, ça, c'est sur le sens, sur le fond, il a toujours eu des fulgurances. Maintenant, pour répondre à notre auditeur, il peut aussi tenter d'écouter des chansons de Dylan interprétées par d'autres qui prennent All Along the Watchtower, interprétées par Jimi Hendrix, peut-être qu'il verra la lumière, où il l'entendra.
Oui, ou Make You Feel My Love par Adele, dans
Adele,
un genre
Adele,
totalement opposé.
De toute façon, il a écrit des chansons universelles qui ont été reprises, mais par des dizaines et des dizaines d'interprètes.
Yves Vigo, vous avez parlé de sa période Jésus, à l'instant, ouais. Justement, on a un message de Vincent sur WhatsApp qui dit « Vous tracez des lauriers à Dylan, mais quid de sa période religieuse » dit-il, fin des années 70. Ses chansons n'étaient pas des modèles de tolérance comme « Gotta Save Somebody ». Sait-on où il en est à ce sujet ?
Alors, il en est sorti, hein, il est revenu à sa foi juive d'origine.
Et alors, pardon, est-ce qu'il a été born again ? Est-ce que c'est comme ça que ça se définit ? C'est
compliqué, oui, bien sûr,
en fait.
Il a été, oui, absolument, okay. il a été born again, absolument, okay. Dans les
formes. Donc, revenu à Jésus-Christ, effectivement. Ouais, okay.
Bien sûr, oui. Mais oui, Dylan, il a eu cette période. Alors, je vais vous la résumer.
Allez-y.
Cette période, j'ai posé... Voilà, je connaissais très bien John Baez à cette époque-là, et je lui ai posé la question, je lui ai dit « mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Bob ?» Elle m'a dit « trop de cocaïne ».
Ah, ok.
Mais d'ailleurs, l'histoire qu'il raconte, c'est qu'il était dans sa chambre d'hôtel et qu'il avait une forte fièvre, et qu'il a vu quelqu'un entrer dans la pièce, il s'est dit « c'est Jésus ». Donc je pense qu'il y a un côté, vous savez... C'est pas un intellectuel non plus, il faut pas non plus faire de lui un type qui réfléchit.
Mais du coup, il y a une chanson quand même, il en parle, Gotta
oui.
Save Somebody, pardon, ça dit quoi
To serve somebody, oui, bah il faut.
Ah, serve ou save
Serve,
ah,
il faut
okay.
servir quelqu'un. Ah,
servir.
Tout le monde a
okay.
un maître.
Tout le monde,
okay.
il faut que tout le monde serve quelqu'un.
Ah oui. Ah oui, quand même.
Oui, oui.
C'est parce que ça veut dire que ça a décontenancé les gens autour de lui, décontenancé les fans cette période-là ou
ah bah oui. Ah bah totalement. D'ailleurs, même les salles se vidaient hein,
ah oui.
Aux États-Unis à ce moment-là. C'est une période, ça a duré 2 ans et demi, à peu près, où oui. Il était effectivement totalement illuminé. Il
non, c'est une illumination, oui, oui. Enfin, c'est pas rationnel. Enfin...
Une illumination, c'est... effectivement, oui. C'est le mot.
Mais ça montre qu'il n'est pas comme nous.
On a
oui, bah, y a des gens qui vivent ça.
Oui, mais ils sont pas comme nous non plus.
Oui, bah, moi, je pourrais te raconter des trucs.
Je vous en prie, attendez, on n'est pas fini, les garçons. Ce message, fin des années 60, j'avais entre 10 et 12 ans, et Bob Dylan, au fond, c'était un vieux truc. Dylan concerne oui. la génération des 68ards, mais pas les post-68ards. Vous n'allez forcément pas être d'accord avec ça, Yves Bigot.
Ben non pas, hein, je vous dis, aujourd'hui, et là il vient d'annoncer une tournée américaine au mois de mars prochain, hein,
ah ouais
il est toujours à 83 ans et demi, 84 bientôt, il est toujours aussi pertinent, sa musique est toujours aussi essentielle, et je vous dis, son dernier album, Run and Rowdy Ways, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Oui. Après, non, ce qui est vrai dans ce que dit notre auditeur qui vous écrit, Fabienne, c'est que bon, d'un point de vue collectif de génération, c'est vrai que Bob Dylan n'intéresse pas, mais c'est normal, enfin, je veux dire, quand nous, quand on avait 15 ou 20 ans, on ne s'intéressait pas à des gens qui étaient nés en 1900.
Bien sûr,
enfin,
bien
bon,
sûr. Et alors, c'est oui. d'autant plus fort en France, hein, parce que c'est les albums en Angleterre, aux États-Unis continuent d'être numéro un.
Oui, oui. Mmh. Mais après, je pense, moi, je connais des garçons, des filles très jeunes qui sont passionnés par Dylan, mais individuellement, il y en a plein. Hein.
Alors, j'en pense à notre auditeur Olivier qui voulait savoir par quelle porte il allait commencer. Peut-être que Nicolas peut l'aider. Bonsoir, Nicolas. Ah, c'est juste un message, pardon. Je croyais que c'était un insert, évidemment, c'est pas pareil. Alors, je voudrais contrebalancer, nous dit Nicolas, avec tous ces anciens, il y met des guillemets, il est bien urbain, qui vous appellent. J'ai vraiment découvert Dylan à mes 40 ans, dit-il. Il y a donc 4 ans et je suis devenu un grand fan. Sa musique, dit-il, est exceptionnelle. Donc, on peut plonger dans Dylan à n'importe quel moment de sa vie. On peut le redécouvrir, y retourner.
Bah, toujours. Enfin, moi, je veux dire, Yves citait des reprises récentes de Adèle, par exemple. Enfin, je sais pas. De toute façon, c'est impossible de s'intéresser à la musique américaine, en général, même contemporaine, sans comprendre qu'elle vient de Dylan. Enfin, c'est impossible.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a toujours quelqu'un, à un moment, qui doit se réclamer de Bob Dylan, à votre avis.
Ou qui va retomber dessus.
Oui, exactement.
On se posait la question, et d'ailleurs, on se l'est posé, Mishka. Cet après-midi, de savoir s'il y avait une partie de protest song qui avait disparu avec Dylan pour réapparaître sous une forme différente. Des protest song à la Dylan, est-ce que c'est fini ça aussi? C'est lui qui les a presque inventés et qui les a empaquetés aussi.
Je pense pas du tout que ce soit fini. Enfin, je veux dire,
fini non, mais sur cette forme-là. Non, aujourd'hui, mais, effectivement, mais Kendrick Lamar fait de la protest song.
Ce à quoi je faisais allusion et ce que montre remarquablement le film, c'est qu'il y a une forme de désillusion par rapport à pouvoir que la chanson pouvait avoir de changer le monde. On parlait de Joan Baez, elle a cru, je pense, de toutes ses fibres, que si des centaines de milliers de personnes chantaient We Shall Overcome, eh bien, une vague se soulèverait et que ça aurait la puissance d'un
et
mouvement
Dylan,
politique.
Et Dylan le dit, d'ailleurs, je ne crois pas une seconde qu'un couplet puisse changer la société.
Oui, et Dylan, il a dit, ben non, moi j'y crois pas, les gars, pardon. Et je pense qu'il y a eu une forme de désillusion. Et ce que raconte le film, c'est comment on a quitté des croyances collectives qui réunissait les gens vers une forme d'individualisme qu'on lui a reproché, parce que le reproche qu'on fait à Bob Dylan, c'est il est devenu une pop star égoïste, vaniteuse, il pense qu'à lui, il est vendu au grand capital, etc., etc. C'est ça qu'il a reçu en pleine gueule à ce moment-là.
Moi, je me demandais, je le disais tout à l'heure, Yves Bigot, en présentation, qui était le Dylan du 21e siècle. Et vous savez s'il a un téléphone portable? Non, mais franchement, moi, franchement, j'imagine ce gars sans, mais peut-être que je me trompe. Alors, je le vois dit... pas sur ChatGPT, par exemple, mais je me demande comment il la voit, cette époque, en fait.
Non, alors d'abord, il dit ce que je fais, aucun logiciel et aucune puce n'est capable de le faire.
Pour le coup, il a raison.
Donc ça, c'est sûr. Mais alors, en revanche, il vit dans son tourbus, hein, il va même pas dans les hôtels quand il est en tournée, il reste dans son bus. Mais en revanche, il sait absolument tout ce qui se passe dans le monde, et y compris, il va au concert des autres artistes incognito. Il était au concert de Nick Cave à Bercy, au mois de décembre.
À Bercy ?
Oui, bien
Bercy
sûr.
À Paris.
Oui, oui, il était là. Ouais. On l'a bien appris. Il a tweeté. Il a tweeté, voilà.
Il a un compte Twitter.
Oui, bien sûr.
Mais attendez.
Il est jamais là où on l'attend.
Ouais. Il vient même d'arriver sur TikTok. Mais en revanche,
j'essaie de savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais
voilà. Mais il va voir des concerts de groupes de heavy metal parce qu'il veut se tenir au courant de ce qui se passe. Puis il a un avis sur tel groupe. Il préfère Metallica à Slayer.
Oui, il y avait une histoire marrante. Si je peux le temps de la raconter, il y a des forums de dingue de Dylan qui toujours font des exégèses. Il a voulu dire ça, il a chanté ça. Et à un moment, il est intervenu. Il dit "Écoutez, moi, je suis Bob Dylan. Je peux vous dire que cette chanson, j'ai jamais voulu dire ça, etc." Et le gars lui dit "Bah oui, t'es Bob Dylan. Moi, je suis le pape." Et il a dit "Bon, écoute, dans 15 jours." Je joue à tel endroit, etc. Je chanterai cette chanson à tel moment. Et il l'a fait. C'était lui.
Mais je trouve ça intéressant ce qu'il dit, en fait. C'est parce qu'effectivement, on en fait plein d'exégèses, mais du coup, ça revient un petit peu, ça bouclera la boucle à ce qu'on disait au début. Est-ce qu'il est aussi politique que ça? Si finalement, à la fin, il dit non, mais attendez, moi, je suis aussi capable de l'avoir écrit sur un coin de table, cette affaire-là, et sans une grosse pensée politique derrière, en fait.
Il est politique, mais pas embrigadé. Voilà,
et ben
exactement.
Voilà. Et ben voilà, politique mais pas embrigadé. Les garçons, je vous remercie beaucoup. Yves Bigot, Mishka Assayas. Yves Bigot, je rappelle le titre de votre ouvrage, ça s'appelle Bob Dylan, Modern Time, le mot et le reste, c'est pour la maison d'édition. Mishka Assayas, les Very Good Trip, on les réécoute quand on veut.